Audience de collimateur, Conseil de défense planétaire. Dès le début de la séance, les représentants des États-Unis, de l'Angleterre, de la France et de l'Allemagne soumirent une motion commune demandant la déchéance immédiate de Rey Diaz de son identité de collimateur et son procès devant la Cour de justice internationale pour crimes contre l'humanité. Le représentant américain déclara « Après des investigations approfondies, nous avons pu déterminer que la stratégie de Rey Diaz telle qu'elle a été révélée par le fissureur était hautement crédible. L'homme auquel nous faisons face aujourd'hui est un criminel. Et à côté de son crime, tous les crimes commis jusqu'ici dans l'histoire de l'humanité sont dérisoires. Nous n'avons pas réussi à trouver de loi qui puisse s'appliquer à cet acte criminel. » C'est pourquoi nous recommandons d'ajouter dans la législation internationale un paragraphe concernant le crime d'extermination de toute vie terrestre, afin que Rey Diaz puisse être jugé sous ce chef d'accusation. Présent à l'audience, Rey Diaz paraissait très détendu. Il s'adressa au représentant américain avec un sourire froid. « Vous aviez envie de vous débarrasser de moi dès le début, n'est-ce pas ? Depuis le lancement du programme, vous traitez les différents collimateurs avec un poids, deux mesures. Vous ne m'avez jamais apprécié. Les propos du collimateur Rey Diaz sont diffamatoires, rétorqua le représentant britannique. Il est en train de blâmer les pays qui ont investi les sommes les plus importantes dans son projet. Aucun autre plan de collimateur n'a nécessité de dépenses aussi lourdes. En effet, fit Rey Diaz en acquiesçant de la tête. Mais la véritable raison pour laquelle vous avez daigné investir autant dans mon projet, c'est parce que vous vouliez mettre la main sur mes bombes à hydrogène stellaire. Ridicule ! Qu'en aurions-nous fait ? Riposta le représentant américain. Ce sont des armes parfaitement inefficaces dans un contexte de guerre spatiale et, sur Terre, il n'y a déjà aucun intérêt stratégique à utiliser des bombes H de seulement 20 mégatonnes. Alors ne parlons pas de vos monstres de 3000 mégatonnes. Rey Diaz répondit avec sérénité. Mais ces bombes pourraient s'avérer être les armes les plus efficaces dans des batailles se livrant à la surface d'autres planètes du système solaire, dans le cas de conflits entre nations humaines, par exemple. Si une guerre devait un jour éclater entre les hommes, elle pourrait être déplacée sur les surfaces désertes des autres planètes et on aurait guère à se soucier des victimes civiles ou de son impact sur l'environnement. On pourrait tranquillement détruire de vastes régions, voire anéantir la surface de toute une planète, sans conséquences directes sur la vie des populations civiles. C'est à ce moment-là que les bombes à hydrogène stellaire se montreront utiles. Vous avez eu la clairvoyance de prévoir que, parallèlement à l'élargissement de l'exploration de l'humanité vers le système solaire, les conflits de notre monde pourraient s'exporter sur les autres planètes. Malgré l'existence d'un ennemi commun, rien n'a changé dans le monde des hommes, et cela vous l'avez anticipé. Aussi, pour que le moment venu une super-arme pouvant être utilisée contre des armées humaines soit prête, vous vous êtes servi de moi, ce qui vous évitait d'avoir à assumer politiquement de tels projets. Le représentant américain continua. C'est bien là la logique absurde d'un terroriste et d'un dictateur. C'est le genre d'homme qu'est Rey Diaz. Investi de l'identité et du pouvoir d'un collimateur, il a élaboré un plan aussi dangereux que l'invasion trisolarienne. Nous devons prendre une mesure forte pour rectifier cette erreur. Cette fois, je ne pourrai pas vous reprocher de ne pas avoir joint l'acte à la parole, ironisa Rey Diaz en se tournant vers le président tournant. Des hommes de la CIA sont en faction au pied du bâtiment. Lorsque l'audience sera terminée, ils m'arrêteront aussitôt que j'aurai mis le pied dehors. Le président tournant, Garanine, jeta un œil dans la direction du représentant américain. Ce dernier avait le regard fixé sur son stylo qu'il faisait tourner dans sa main. Garanine avait été le premier président du CDP au moment du lancement du programme collimateur et, pendant les 20 années qui avaient suivi, lui-même avait eu du mal à compter le nombre de mandats temporaires qui lui avaient été confiés. Mais cette fois, c'était la dernière. Ses cheveux avaient entièrement blanchi, il allait bientôt prendre sa retraite. Si ce que dit le collimateur Rey Diaz est vrai, c'est une méthode inappropriée. Tant que les principes du programme sont actifs, les collimateurs bénéficient d'une immunité. Aucun de leurs actes ou de leurs discours ne peut être utilisé comme preuve devant un tribunal, affirma Garanine. Et permettez-moi de vous rappeler que nous sommes ici dans un territoire international. ajouta le représentant japonais. « Alors !» réagit le représentant américain en levant le stylo qu'il avait dans la main. « Est-ce que cela signifie que même lorsque Ray Diaz s'apprêtera à déclencher le million de superbombes qu'il aura enfoui dans le sous-sol de Mercure, la société ne pourra toujours pas le condamner ?» Selon les termes de la législation du programme collimateur, si un plan apparaît comme ouvertement dangereux, sa mise à exécution peut être limitée ou bloquée, mais cela ne concerne en rien l'immunité des collimateurs eux-mêmes, précisa Garanine. Les crimes dont il s'est rendu coupable ont déjà dépassé les limites de son immunité. Il doit être puni. C'est la condition nécessaire à la poursuite du programme collimateur, affirma le représentant britannique. « Je me permets de demander l'attention de Monsieur le Président et de Mesdames et Messieurs les représentants, » dit Ray Diaz en se levant de son siège. « C'est une audience de collimateur par les membres du comité du Conseil de défense planétaire, non un tribunal. « Patience, vous y serez bientôt, » ricana le représentant américain. « Je suis d'accord avec le collimateur Ray Diaz. Revenons au débat concernant le plan lui-même. » dit Garanine, saisissant cette opportunité pour éluder temporairement ce problème épineux. Le représentant japonais, qui n'avait pas pris parti jusque-là, prit la parole. « Je crois que nous pouvons déjà constater que tous les représentants ici présents partagent au moins une vision commune sur le point suivant. La stratégie du collimateur Ray Diaz a révélé une atteinte dangereuse portée aux droits humains fondamentaux. Selon ce que stipule la législation du programme, il faut donc y mettre un terme. Dans ce cas, nous allons procéder au vote de la motion P-269 soumise lors de la dernière séance au sujet de l'interruption du plan du collimateur Ray Diaz, dit Garanine. Monsieur le Président, attendez, le coupa Ray Diaz en levant la main. Avant le vote, je voudrais pouvoir ajouter ici quelques détails au sujet de mon plan. « Est-ce bien nécessaire s'il ne s'agit que de détails ?» demanda quelqu'un. « Vous aurez tout le temps d'en parler au juge, » ironisa le représentant britannique. « Non, ces détails sont très importants, » insista Ray Diaz. « Supposons maintenant que le plan stratégique révélé par le fissureur soit exact. Imaginons la situation évoquée plus tôt par un représentant. À l'heure de déclencher l'explosion d'un million de bombes à la surface de Mercure, si j'envoyais par l'intermédiaire des intellectrons un message d'avertissement au monde de Trisolaris indiquant que leur invasion aurait pour conséquence l'extermination des deux civilisations, que se passerait-il? Il est tout simplement impossible de prédire la réaction des Trisolariens, mais vous pouvez être sûr que, sur Terre, des milliards de personnes voudront vous briser le cou, comme vous avez essayé de le faire à votre fissureur, répondit la représentante française. Exactement. C'est pourquoi j'ai pris quelques dispositions pour faire face à cette situation. Regardez tous !» Ray Diaz leva la main gauche et exhiba la montre accrochée à son poignet. Celle-ci était entièrement noire et faisait le double tant en largeur qu'en épaisseur d'une montre-bracelet ordinaire, quoiqu'elle ne parût pas si grande sur la main trapue de Ray Diaz. « C'est un émetteur capable de transmettre des signaux vers Mercure par liaison spatiale. » « Vous avez l'intention de vous en servir pour envoyer un signal de détonation ?» demanda quelqu'un. « C'est précisément l'inverse. Elle envoie un signal de non-détonation. » Cette phrase de Ray Diaz lui valut l'attention de tous les participants. Il continua. « J'ai appelé ce dispositif de veille automatique un berceau. Quand l'enfant cesse d'être bercé, il se réveille. La montre envoie des signaux continus vers un système de réception basé sur Mercure. » Si le signal est interrompu, le système donnera l'ordre de provoquer le déclenchement immédiat de l'explosion. C'est ce qu'on appelle chez nous un dead man switch, dit le représentant américain, impassible. Pendant la guerre froide, des recherches ont été effectuées dans le domaine des stratégies nucléaires pour développer ce genre de dispositif, mais il n'a jamais été appliqué. Seul un fou tel que vous en serait capable. Ray Diaz abaissa la main gauche et cacha le berceau sous sa manche. « Cette merveilleuse idée ne m'a pas été donnée par un expert en stratégie nucléaire, mais par un film américain. Dans ce film, un homme possède lui aussi un gadget de ce genre qui ne cesse d'envoyer des signaux, mais si son cœur s'arrête de battre, le signal s'arrête aussitôt d'émettre. On a accroché sur le corps d'un autre personnage une bombe impossible à enlever. Si la bombe ne reçoit plus aucun signal, elle explose. C'est pourquoi le deuxième personnage malchanceux a beau ne pas supporter le premier, il lui faut absolument le protéger. J'aime regarder les vieux films hollywoodiens. Aujourd'hui encore, je serais capable de reconnaître le vieux Superman. Vous voulez dire que cette montre est reliée à vos pulsations cardiaques ? Demanda le représentant japonais. Ce dernier, assis non loin de lui, tendit la main pour toucher le berceau que Rei Diaz cachait sous sa manche, mais le colmateur repoussa sa main et s'éloigna de lui. « Naturellement, mais la technologie de ce berceau est plus avancée et plus raffinée que ça. Il ne surveille pas seulement les battements du cœur, mais aussi beaucoup d'autres indicateurs physiologiques. La pression sanguine, la température corporelle, etc. » Il effectue une analyse générale de ces différents paramètres et s'il constate quelque chose d'anormal, il cesse immédiatement de transmettre les signaux. Mais l'émetteur reste capable de discerner plusieurs ordres simples grâce à la reconnaissance vocale. À cet instant, un homme semblant nerveux entra dans la salle d'audience et chuchota quelque chose à l'oreille de Garanine. Il n'avait pas encore fini que le président leva la tête et lança à Rei Diaz un regard troublé qui n'échappa pas à l'attention des autres représentants. « Il existe un moyen de désamorcer votre berceau. Des méthodes pour contrer ce dispositif ont aussi été développées lors de la guerre froide », expliqua le représentant américain. « Ce n'est pas mon berceau, mais celui des bombes. Si le berceau cesse d'être balancé, les bombes se réveillent. » « Je pense à un moyen ?» dit le représentant allemand. Vous dites que les signaux sont transmis jusqu'à Mercure par votre montre, ce qui implique nécessairement qu'ils passent par une liaison de communication complexe. Il nous suffit de détruire ou de blinder n'importe quel nœud de communication et d'employer une fausse source d'émission pour continuer à transmettre des signaux de non-détonation. Votre système de berceau ne sera dès lors plus opérationnel. C'est effectivement un problème, approuva Rei Diaz d'un hochement de tête. Qui serait néanmoins facile à résoudre sans les intellectrons. Tous les nœuds de la liaison possèdent le même algorithme de chiffrement qui génère l'intégralité des signaux. Si chaque signal peut sembler aléatoire et différent pour le monde extérieur, l'émetteur et le récepteur produisent en fait la même séquence de valeurs. Ce n'est que si le signal reçu par le récepteur correspond à sa propre séquence que le signal est considéré comme valide. Sans cet algorithme de chiffrement, le signal émis par votre fausse source ne correspondra pas à la séquence du récepteur. Mais malheureusement, ces foutus intellectrons peuvent déchiffrer l'algorithme. « Vous avez sans doute songé à une autre approche ?» demanda quelqu'un. « Une approche plus grossière. Après tout, il paraît que c'est dans ma nature d'être grossier. » glissa Rei Diaz en se moquant de lui-même. « J'ai renforcé la sensibilité de la surveillance interne de chaque nœud. Voici concrètement comment cela fonctionne. Chaque nœud de communication est structuré de plusieurs unités. Celles-ci peuvent être séparées par une large distance, mais n'en appartiennent pas moins à un tout. Si une seule de ces unités rencontre un problème, le nœud entier interrompt l'émission du signal. Après quoi, même si la fausse source parvient à transmettre un signal au nœud suivant, celui-ci ne sera pas reconnu. La précision du système de surveillance interne de toutes les différentes unités peut déjà atteindre aujourd'hui l'échelle de la microseconde, ce qui veut dire que si l'on veut mettre en œuvre la suggestion de monsieur le représentant allemand, il faudrait détruire en moins d'une microseconde l'ensemble des unités qui composent un nœud et raccorder le signal à la fausse source. Chaque nœud est structuré par au minimum 3 unités et un maximum de quelques dizaines. Enfin, la distance entre ces unités est d'environ 300 km. Chacune d'entre elles est extrêmement résistante et n'importe quelle interférence venue du monde extérieur enverrait un signal d'avertissement. Provoquer la défaillance de chacune de ces unités en moins d'une microseconde est peut-être à la portée des trisolariens, mais, aujourd'hui du moins, certainement pas des hommes. Sa dernière phrase mit tous les participants en alerte. « Je viens de recevoir un rapport m'indiquant que la montre accrochée au poignet de Rei Diaz ne cessait en effet d'émettre des signaux électromagnétiques, » dit Garanine. Cette information plongea instantanément l'assemblée dans la nervosité. « Colmateur Rei Diaz, je souhaiterais vous poser une question. Est-ce à Mercure que sont transmis les signaux de votre montre ?» Rei Diaz éclata d'un rire sonore. « Pourquoi m'embêterais-je à émettre vers Mercure ? Il n'y a rien d'autre là-bas qu'un grand cratère. De plus, la liaison spatiale du berceau n'a pas encore été établie. Non, non, les signaux ne partent pas vers Mercure, mais pas loin d'ici, quelque part dans New York. L'atmosphère se figea, et tous les participants présents dans la salle en dehors de Ray Diaz demeurèrent aussi statiques que des coques en bois. Qu'est-ce qui se déclenchera si les signaux émis par le berceau s'arrêtent ? Demanda le représentant britannique sur un ton sévère, n'essayant plus de dissimuler son inquiétude. « Oh, quelque chose se déclenchera bien !» répondit Ray Diaz avec un rire débonnaire. « Cela fait 20 ans que je suis collimateur, j'ai eu le temps de m'organiser. »« Alors, monsieur Ray Diaz, peut-être pourrez-vous répondre à une question plus directe ?» dit la représentante française dont l'apparence sereine était trahie par les tremblements de sa voix. « De combien de vies sommes-nous, ou bien êtes-vous, responsable ?» En entendant cette question, Ray Diaz écarquilla les yeux comme s'il la trouvait ahurissante. « Comment ? Ainsi donc, le nombre de personnes a son importance ? Et moi qui croyais que tous les gens ici présents étaient de respectueux gentlemen tenant les droits de l'homme pour la chose la plus précieuse au monde. Un seul individu ou bien 8 millions comme la population de New York, y a-t-il une différence ? Si je vous donnais la première réponse, vous pourriez passer outre vos principes ? Le représentant américain bondit sur son siège. « Dès le début du programme collimateur, il y a 20 ans, nous avions mis en garde contre cet individu » s'exclama-t-il en pointant du doigt Ray Diaz et en avalant sa salive pour donner l'impression d'une sérénité extrême, bien qu'il finît tout de même par perdre le contrôle de lui-même. « C'est un criminel, un fumier, un immonde terroriste, un diable que vous avez laissé sortir de sa boîte !» Vous devez prendre vos responsabilités. Les Nations Unies sont responsables, hurla-t-il hystérique en envoyant valser les dossiers devant lui. Gardez votre sang-froid, monsieur le représentant, dit Ray Diaz en souriant. Mon berceau est très sensible aux indices physiologiques. Si j'étais aussi hystérique que vous, il aurait cessé d'émettre depuis longtemps. Mon humeur ne peut pas être instable. C'est pourquoi vous, ainsi que tous ceux qui sont assis ici, ne devez pas me contrarier et faire tout votre possible pour me satisfaire. Il vaudrait mieux, dans l'intérêt de tous.
« Quelles sont vos conditions ?» fit Garanine à voix basse.
Le sourire sur le visage de Ray Diaz se fit lugubre et il secoua la tête en direction de Garanine.
« Monsieur le Président, que pourrais-je bien réclamer ? Quitter cet endroit et retourner dans mon pays. Un avion m'attend à l'aéroport Kennedy. »
L'assemblée demeura silencieuse. Inconsciemment, les yeux se tournèrent peu à peu vers le représentant américain. Incapable de supporter le poids de ses regards, il se projeta violemment sur le dos de son siège et grommela entre ses dents
« Foutez le camp !»
Ray Diaz hocha doucement la tête, se leva et se dirigea vers la sortie.
« Monsieur Ray Diaz, je vous raccompagne jusque chez vous, » dit Garanine, puis il descendit de son estrade.
Ray Diaz s'arrêta, attendant Garanine qui se déplaçait avec moins d'aisance qu'autrefois.
« Je vous remercie, monsieur le Président. Je viens de me souvenir que vous aussi vous vouliez quitter cet endroit. »
Tous deux marchèrent jusqu'à la porte. Puis Ray Diaz agrippa Garanine et il se retourna avec lui vers l'assemblée.
« Mesdames et messieurs, cet endroit ne me manquera pas. J'y ai gaspillé 20 ans de mon existence. Ici, personne ne m'a compris. Je vais rentrer dans mon pays, auprès de mon peuple. Oui, mon pays, mon peuple. Eux, ils me manquent. »
Les personnes présentes remarquèrent avec surprise que des larmes brillaient dans les yeux de cet homme imposant. Il finit par dire
« Je rentre au pays. Cela ne fait pas partie du plan. »
Une fois qu'il eut passé la porte du siège des Nations Unies, Ray Diaz, suivi de Garanine, ouvrit ses deux bras vers le soleil de midi et cria, rempli d'ivresse,
« Ah, mon soleil !»
Son héliophobie, qui durait depuis 20 ans, avait disparu. Après son décollage, l'avion spécialement affrété pour Ray Diaz franchit rapidement la ligne de la côte et commença à naviguer au-dessus de l'immense océan Atlantique. Une fois dans la cabine, Garanine dit à Ray Diaz
« Tant que je serai là, votre avion sera en sécurité. Veuillez à présent me dire où se trouve le dispositif relié à votre berceau. Il n'y a aucun dispositif. Il n'y a rien du tout. C'était juste une tactique pour m'enfuir.
Rey Diaz ôta sa montre et la tendit à Garanine.
C'est simplement une vieille Motorola que j'ai trafiquée pour en faire un émetteur, mais elle n'est pas reliée à mes pulsations cardiaques. Je l'ai éteint. Gardez-la comme souvenir.
Ils se dévisagèrent un long moment sans parler. Puis Garanine poussa un long soupir.
Comment a-t-on pu en arriver là? Le privilège des colmateurs de pouvoir concevoir des stratégies en monde clos devait servir à lutter contre les intellectrons et Trisolaris. Mais vous, comme Taylor, vous étiez prêt à l'utiliser contre l'humanité elle-même.
Il n'y a rien d'étrange à cela,
souffla Rey Diaz en s'asseyant près du hublot pour profiter des rayons de soleil qui perçaient à travers.
Le plus grand obstacle à la survie de l'humanité, c'est l'humanité elle-même.
6 heures plus tard, l'avion atterrit sur le tarmac de l'aéroport international de Caracas, sur la côte caribéenne. Garanine ne descendit pas de l'appareil, il repartait aux Nations Unies. Au moment de se dire adieu, Rey Diaz affirma
« N'interrompez pas le programme colmateur, c'est une vraie lueur d'espoir dans cette guerre. Il reste encore 2 colmateurs, souhaitez-leur bonne chance de ma part. »
« Je ne les reverrai plus non plus, » répondit Garanine avec émotion.
Quand Rey Diaz fut parti, il ne resta plus dans la cabine que lui et sa tristesse. Le ciel de Caracas était aussi clair que celui de New York. Rey Diaz descendit la passerelle et fut saisi par une familière atmosphère tropicale. Il s'allongea par terre et baisa pendant un long moment le sol de sa patrie. Puis, sous la protection d'une escorte armée, il fit route vers la ville. Le cortège d'automobiles roula pendant une demi-heure sur une route de montagne avant d'entrer dans la capitale et de se diriger vers la place Bolivar au centre de la cité. Rey Diaz descendit de voiture et marcha jusque sous la statue de Simon Bolivar. Il monta sur son socle. Au-dessus de sa tête se dressait ce héros en armure sur son cheval au galop, qui avait vaincu les colons espagnols et tenté de fonder la Confédération de la Grande Colombie. Devant lui, une foule de gens frénétiques bouillait sous les rayons du soleil, gonflant à mesure de son avancée. La police peinait à les contenir et tirait même des coups de feu en l'air. Mais la marée humaine parvint à franchir la ligne de sécurité et fonça vers le Bolivar vivant qui se tenait sous la statue. Rey Diaz leva les mains en l'air et, les yeux gorgés de larmes, il cria avec émotion à l'adresse de la foule
« Ah, mon peuple !»
Quelqu'un lança une première pierre sur sa main gauche tendue en l'air. Une deuxième heurta sa poitrine et une troisième, qu'il reçut sur le front, le projeta au sol. Puis ce fut une pluie de pierres lancées par le peuple qui s'abattit sur lui, recouvrant un corps déjà abandonné par la vie. Le dernier projectile qui frappa le colmateur Rey Diaz fut lancé par une vieille femme qui leva bien haut sa pierre et marcha jusque devant son cadavre en crachant en espagnol.
« Bastardo, tu as voulu tuer tous les hommes et mon petit-fils avec eux. Tu as voulu tuer mon petit-fils. Vete al carajo !»
Et tout en parlant, elle réunit toutes ses forces pour écraser sa pierre sur le crâne déjà fissuré de Rey Diaz, qui saillait au sommet du tas de cailloux. Seule la course du temps était inarrêtable. Comme une lame aiguisée, il trancha tout ce qui se trouvait sur son passage, du plus dur au plus tendre, et continua son inébranlable marche en avant. Rien n'était capable de lui mettre des bâtons dans les roues, mais il bouleversait tout. La même année que l'essai de la bombe sur Mercure, Chang Weizi prit sa retraite. Lors de sa dernière apparition officielle devant les médias, il avoua avec franchise qu'il n'avait aucune confiance dans la victoire finale. Cette confession n'altérait cependant pas le grand respect pour son travail de premier amiral de l'armée spatiale que l'histoire saluerait plus tard. Avoir servi tant d'années dans un état d'anxiété permanente avait altéré sa santé et il décéda à l'âge de 68 ans. Sur son lit de mort, l'amiral était encore lucide et prononça plusieurs fois le nom de Chang Beiyei. Comme l'avait prédit Keiko Yamasugi, Wu Yu passa le reste de sa vie dans la dépression et l'égarement. Il travailla une dizaine d'années au sein du projet du Mémorial de l'Humanité, mais n'y trouva aucun réconfort spirituel. Comme Chang Weizi, lui aussi murmura le nom de Chang Beiyei lors de son dernier souffle. Tous deux confièrent, dans ce guerrier résolu qui traverserait les âges en hibernation, leur dernier espoir pour le futur. Sei, qui avait été pendant deux mandats consécutifs secrétaire général de l'ONU, lança le projet Mémorial de l'Humanité, dont le but était de collecter un maximum de documents et d'artefacts de la civilisation humaine, puis de les envoyer dans une capsule sans être vivant dans l'univers. L'un des axes les plus importants de ce projet était la rédaction du Journal de l'Humanité. Plusieurs sites Internet avaient été créés en ce sens pour permettre à un maximum de gens de consigner par l'écriture et par l'image chaque journée de leur vie quotidienne pour servir de document authentique de la civilisation humaine. Le nombre d'utilisateurs des sites Internet du Journal de l'Humanité franchit un jour la barre des 2 milliards, devenant la plateforme web la plus utilisée de l'histoire. Plus tard, le CDP considéra que le projet de Mémorial de l'Humanité était un encouragement au défaitisme et on vota donc la résolution d'y mettre un terme. Tous ceux qui y participaient étaient traités avec la même sévérité que les évasionnistes. Mais Sei poursuivit de son côté ses efforts pour ce projet jusqu'à son décès, à l'âge de 84 ans. Après leur retraite, Garanin et Kent firent tous deux le même choix. Ils se retirèrent dans le jardin d'Éden où le colmateur Luoji avait vécu 5 années durant et ne réapparurent plus aux yeux du monde. On ne sut même jamais le jour exact de leur décès, mais une chose était sûre, ils avaient vécu longtemps. On racontait même que tous deux s'étaient éteints après avoir dépassé un siècle de vie. Le docteur Abbott Ringer et le général Fitzgerald vécurent tous deux plus de 80 ans. Ils assistèrent à la construction du télescope Hubble 3, dont le diamètre faisait plus de 100 mètres, et purent observer grâce à lui la planète de Trisolaris. Mais ils ne revirent plus de leur vivant les vaisseaux de la flotte trisolarienne, ni les sondes qui s'en étaient échappées. Ils ne purent vivre suffisamment longtemps pour les voir traverser le troisième champ de neige. La vie des hommes ordinaires se poursuivait et s'achevait de la même manière. Miao Fukuyan fut le premier des trois voisins pékinois à s'éteindre après avoir fêté ses 75 ans. Il demanda vraiment à son fils de l'enterrer dans un puits de mine d'une profondeur de plus de 200 mètres. Ce dernier agit conformément aux dernières volontés de son père en faisant exploser les parois du puits et en érigeant à la surface une stèle funéraire pour les touristes qui visiteraient le site. La dernière génération avant l'ultime bataille aurait le devoir de retirer la stèle et de la replanter si les humains remportaient la victoire. Mais à peine un demi-siècle plus tard, la zone au-dessus du puits était devenue un désert et la stèle avait disparu dans le sable jaune. L'emplacement du puits fut perdu et aucun des descendants de la famille Miao ne se donna la peine d'aller le chercher. Chang Yuan Chao mourut de maladie à l'âge de 80 ans, comme un homme ordinaire, et comme un homme ordinaire, il fut incinéré. Ses cendres furent recueillies dans une urne qui fut placée dans la cage d'un long crématorium d'un cimetière public. Yang Jinwen vécut jusqu'à 92 ans. L'urne en alliage de métal qui recueillit ses cendres fut envoyée dans l'univers, au-delà du système solaire, à la troisième vitesse cosmique. Cela lui avait coûté toutes ses économies. Ding Yi, lui, était encore vivant. Après sa contribution aux avancées dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée, il se tourna à nouveau vers des recherches en physique théorique et tenta de trouver un moyen de contourner les interférences des interélectrons lors des expériences des accélérateurs de particules, mais sans succès. Après ses 70 ans, comme tous les autres physiciens, il cessa de croire à la possibilité d'une avancée décisive dans les sciences physiques. Il entra en hibernation, dans l'objectif de se réveiller au moment de l'ultime bataille. Son seul espoir était de pouvoir voir de ses propres yeux les technologies supérieures du monde trisolarien. Un siècle après le début de la crise trisolarienne, tous les humains qui avaient vécu l'âge d'or s'étaient éteints. On appelait l'âge d'or Cette période bénie commençait dans les années 1980 jusqu'à l'apparition de la crise. Cette époque était sans cesse remémorée et les vieux qui l'avaient vécue ruminaient sans relâche comme des bovins des souvenirs douceâtres de ce temps. Ils terminaient toujours par cette phrase « Ah, à l'époque, on ne savait pas apprécier ce qui était précieux ». Les jeunes générations écoutaient leurs récits avec un mélange de jalousie et d'incrédulité. Elles se demandaient si cette paix, cette gloire, ce bonheur et cette insouciance légendaire, digne de la source aux fleurs de péché, avaient vraiment existé. Avec le départ des plus âgés, les rivages de l'âge d'or s'éloignèrent peu à peu jusqu'à s'évanouir enfin dans la brume de l'histoire. Désormais, le navire de la civilisation humaine flottait seul au milieu d'un vaste océan, encerclé par une houle sinistre. Quant à la rive opposée, nul ne savait si elle existait.